Bienvenue, homme de Dieu, pour le message. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on peut m'aider à acclamer encore pour Jésus? Apparemment, on est fatigué d'acclamer aujourd'hui. On est là. J'ai comme l'impression qu'il y a un peu de fatigue. On a beaucoup acclamé. Vous allez m'excuser, mais je vais vous demander encore de nous lever juste pendant un petit moment. Juste pendant une minute. Et nous allons acclamer très, 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 très fort pour Jésus. Merci beaucoup, on peut reprendre nos places. Nous rendons grâce à Dieu encore pour ces jours nouveaux qu'il nous accorde, pour ces moments qu'il nous donne d'être dans sa présence, l'adorer, les louer et aussi entendre sa parole. Amen, amen. Et comme vous le savez, depuis les dimanches passés, on a commencé une série d'enseignements qui est intitulée « Vous serez mes témoins ». Alors vous allez juste m'aider à dire encore à votre voisin « Vous serez mes témoins ». Vous serez témoin. Et le dimanche passé, on a parlé longuement. Le but principal du dimanche passé, c'était, ou l'essentiel du message, c'était nous dire comment, en fait, on devient témoin de Christ. Quels sont les éléments à prendre en compte pour dire que là, je suis témoin de Christ. Et en parlant de ces éléments, il a été question d'abord de dire qu'il est impossible d'être témoin de Christ si d'abord on ne l'a pas rencontré. Donc, le point de départ pour tout témoin du Seigneur Jésus, c'est d'abord la rencontre avec Jésus. Pourquoi? Parce que le témoignage que nous allons rendre de lui est fonction de ce que nous avons vécu avec lui, de ce qu'il a fait dans nos vies et de ce qu'il nous dit d'aller dire de sa part. On a donné quelques exemples dans la Bible avec la femme samaritaine et plusieurs autres personnes dont on a cité, disant que ça part d'abord par les saluts avant de commencer à témoigner. Parce qu'on ne témoigne pas des histoires qu'on a entendues de quelqu'un d'autre, mais il est question de témoigner de ce que nous avons vécu dans notre vie personnelle avec Christ. Et deuxièmement, on a parlé du fait d'être disciple, et on a fini en disant que tout témoin de Christ reçoit toujours l'équipement de Dieu. C'est-à-dire quand Dieu nous appelle à témoigner de lui, il ne nous laisse pas comme ça sans force. Il prend toujours le soin de nous équiper. Vu que le temps était largement passé, on n'avait pas donné tous les éléments, mais on avait insisté sur un seul élément que Actes chapitre 1, verset 8 nous dit, disant que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, pour dire qu'au-delà de tous les autres éléments que l'on peut citer, l'élément le plus indispensable qui fait de nous des témoins efficaces de Christ, c'est le fait que nous recevions de sa part sa puissance, la puissance du Saint-Esprit qui descend sur nous. Ce n'est qu'en ces moments-là qu'on devient témoin efficace de Jésus-Christ. Amen, amen. S'il faut donner un résumé pour ceux qui n'étaient pas là, voilà un peu le résumé. Pour ceux qui voudront entendre tout le message, je pense que c'est déjà mis dans le site web de la paroisse, alors vous pouvez juste aller cliquer là-bas, je crois que vous le trouverez. Et pour aujourd'hui, pendant quelques minutes, nous allons essayer de répondre à la question de savoir pourquoi témoigner de Christ. Pendant juste quelques minutes, on va essayer de répondre à cette question sur base, bien sûr, de ce que la Bible nous dit et de ce que la Bible nous révèle. Amen, amen. Ainsi, je nous propose 5 passages des Écritures pour aujourd'hui qui vont nous conduire dans notre méditation. Le premier, bien sûr, c'est notre passage de base, Actes chapitre 1, le verset 8. Actes chapitre 1, le verset 8, la Bible déclare « Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. » Le deuxième passage, c'est dans Marc, chapitre 5. Marc, chapitre 5, le verset 18 à 20. Marc, chapitre 5, le verset 18 à 20. La Bible déclare, « Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, Mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Romains chapitre 10, versets 9 à 17. Romains chapitre 10, le verset 9 à 17. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut, comme le dit l'Écriture. Celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Ainsi, il n'y a aucune différence entre les Juifs et les non-Juifs, puisqu'ils ont tous le même Seigneur qui se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Comme il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. En effet, Esaïe dit, « Seigneur, qui a cru à notre prédication ?» Verset 17, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Nous sommes au troisième, quatrième passage, Marc chapitre 15, le verset 15 à 20. Marc chapitre 15, Marc chapitre 16, le verset 15 à 20. Puis il leur dit, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles et les prodiges qui l'accompagnaient. Le dernier passage, Luc chapitre 4, le verset 16 à 21. Luc chapitre 4, le verset 16 à 21, la Bible déclare, « Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture, et on lui remit les livres du prophète Esaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula les livres, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Amen, amen. Je sais que la lecture a été un peu longue, alors merci d'avoir patienté aussi. Bon, de toutes les façons, vous n'aviez pas le choix, mais merci quand même. Pourquoi témoigner de Christ? Certainement que c'est une question qu'on se poserait tous ou qu'on se pose certainement, dit bon, on doit témoigner, mais quelles sont les raisons qui pourraient nous pousser à réellement témoigner de Christ? Qu'est-ce qui m'amènerait, moi, à commencer à parler de Christ? Et dans les quelques versets que nous avons lus, le premier acte chapitre 1, c'est lorsque le Seigneur Jésus lui-même donne la mission et donne l'ordre aux disciples d'attendre la venue du Saint-Esprit. Dans Marc chapitre 5, c'est l'histoire d'un homme qu'on appelle le fou de Gadara. Quand vous lisez tout le chapitre, vous vous rendez compte que cet homme était tellement possédé par des milliers de démons que dans toute la ville, il n'y avait plus personne qui arrivait à le maîtriser. On avait essayé de l'enfermer par des chaînes, on avait essayé de mettre tout le mécanisme possible pour l'enfermer, mais tellement qu'il dégageait une force, la Bible dit qu'il brisait toutes les chaînes au point qu'il n'y avait plus moyen de le maîtriser. Tout le monde l'avait laissé, tout le monde l'avait mis de côté. Non seulement que personne n'arrivait plus à l'enfermer ou à l'arrêter, mais la Bible dit qu'il passait ses journées dans les sépulcres. C'était là son habitation et il n'était pas habillé. Donc, les démons l'avaient tellement possédé qu'il était devenu dans une situation malheureuse. On nous révèle dans la parole de Dieu, le même passage que nous avons lu, qu'il y avait toute une légion de démons, à peu près 2000 démons dans une seule personne. Donc imaginez, vous rassemblez la force de 2000 personnes bien entraînées au combat, bien préparées pour la guerre. Vous prenez toutes ces forces-là rassemblées, vous le mettez dans une seule personne. Bien, là, il ne s'agit pas des hommes, mais il s'agit maintenant des démons. Et il s'est fait qu'un jour, Jésus vient dans cette ville-là, et les démons qui possédaient l'homme, ils se jettent rapidement sur Jésus, devant Jésus. Il dit, mais qu'est-ce que tu nous fais, Jésus, fils de Dieu? Nous savons qui tu es loin de Dieu et tout, ne nous fais pas du mal et tout ça. Jésus a chassé les démons et puis la personne est revenue dans son bon sens. Et le passage, le verset que nous avons lu, nous donne quelques raisons pour lesquelles nous devons témoigner de Jésus-Christ. Et cet après-midi, je ne serai pas très long, je vais juste nous donner trois raisons qui devraient nous pousser, ou trois raisons pour lesquelles nous devons absolument témoigner de Jésus-Christ au milieu de nous. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. D'accord. Alors la première raison pour laquelle nous devons témoigner de Jésus-Christ, c'est que Christ a eu pitié de nous. La première raison pour laquelle nous devons témoigner de Christ, c'est que Christ a eu pitié de nous. Le verset que nous avons lu en premier dans Marc, le fou dit à Jésus, « Seigneur, comme tu viens de me guérir, permets-moi de rester avec toi et de marcher avec toi. » Mais Jésus ne lui permit pas et Jésus lui dit, « Va plutôt vers le sien et va leur raconter tout ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. Comment le Seigneur a eu miséricorde de ta vie et ce qu'il a fait de toi. Et au lieu de venir rester avec moi, vas-y plutôt vers le tien et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour ta vie. » S'il y a une raison principale pour laquelle on doit témoigner de Jésus, c'est qu'on doit d'abord commencer par reconnaître que Christ a eu pitié de nous. C'est-à-dire que nous étions dans une situation très misérable. Si aujourd'hui nous pourrons nous approcher de Dieu avec assurance, c'est parce qu'il nous a fait miséricorde. Et le Seigneur veut d'abord, avant tout, nous qui nous disons enfants de Dieu, nous qui avons décidé de le suivre, que l'on reconnaisse chaque jour de notre vie que ce que nous sommes, ce n'est pas le fruit de nos efforts. Que ce que nous sommes devenus, ce n'est pas à force d'avoir multiplié des efforts ou avoir accompli des bonnes œuvres, mais c'est que Christ a eu pitié de nous et il nous a transformés. Et cela doit nous pousser à aller témoigner. Pourquoi? Parce que si Christ a eu pitié de nous, c'est qu'il a aussi pitié des autres personnes qui sont encore dans le péché. Et ce qu'on doit leur dire, c'est que j'étais comme vous, j'étais dans la même situation que vous, mais aujourd'hui ma vie a pu changer parce que j'ai rencontré un homme qui a eu pitié de moi. Et de la même manière qu'il a eu pitié de moi, il a aussi pitié de vous. Paul dit aux Éphésiens que nous aussi, nous étions du nombre de ceux qui marchaient sous la domination de l'ennemi. Nous marchons selon notre propre convoitise, nous marchons selon le prince de ce monde, selon les traits de la puissance de l'air. Mais Christ, à cause du grand amour dont il a, qui nous a aimés, à cause de la pitié qu'il avait pour nous, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie par sa grâce, au moyen de la foi. On doit toujours reconnaître dans tout notre parcours que ce que nous sommes devenus aujourd'hui, c'est le résultat de la miséricorde de Dieu envers nous. Il n'y a aucune personne qui peut se dire devant Dieu que j'ai mérité ce que je suis devenu. Nullement. Il n'y a aucune personne qui peut venir devant Dieu pour dire, Seigneur, moi, si je suis ce que je suis, c'est parce que j'ai fait ça. À partir du moment où tu crois ça, c'est que Christ n'est pas encore dans ta vie. Parce que tu n'as pas encore reconnu la grâce de Dieu dans ta vie. Et à partir du moment où tu crois ça, ne t'attends pas à ce que tu vois Dieu agir dans ta vie. Parce que tu es encore plein d'orgueil. Ce que nous sommes, ce que nous devenons et ce que nous deviendrons n'ont qu'un seul sous-basement, n'ont qu'un seul fondement, c'est la pitié de Christ. Et donc, si nous devons aller témoigner de Christ aux autres, on doit reconnaître qu'il a eu pitié de nous. Si je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce que Christ a eu pitié de moi. Il y a moins de 10 ans en arrière, je ne rêvais même pas de faire ça. Mais plus encore, je ne méritais même pas de me tenir pour parler de Dieu. Parce que ma vie, c'était, je passais mes journées dans le péché. Mais Christ a eu pitié de moi malgré tout le malheur dans lequel j'étais, tout le malheur dans lequel je me suis mis moi-même à cause de mes fautes. Il n'a pas regardé tout ça, il m'a pris dans sa grâce et a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Il m'a établi pour être son serviteur et pour parler de sa part. Je ne me vanterai jamais de rien d'autre si ce n'est que de la grâce de Dieu dans ma vie. Et donc si l'on doit nous frapper la poitrine d'une seule chose dans notre vie, ça doit être d'avoir bénéficié de la grâce de Dieu. Parce que Christ est venu au milieu de nous, plein de grâce et de vérité. Et c'est à cause de sa grâce que vous et moi, nous sommes ici maintenant. Ni t'était sa grâce, aucun de nous ne serait ici. Et je crois même qu'aucun de nous ne serait encore vivant sur cette terre. Aucun de nous ne serait vivant. Mais il nous a tant aimés qu'il n'a pas regardé ce que nous avions fait. Il nous a fait miséricorde. Il ne nous a pas traités selon que méritaient nos œuvres. mais il a accepté de nous pardonner, de nous purifier et de nous justifier dans sa grâce. Alors, reconnaissons cela dans ta vie. Toutes les fois que nous regardons les autres autour de nous qui sont en train de se perdre, n'oublions pas que, et aussi, le Seigneur veut leur accorder sa grâce. Arrêtons d'être orgueilleux, disant que nous sommes mieux que les autres. Non, c'est la grâce de Dieu qui nous a rendus différents. Et alors, on doit aussi donner aux autres l'opportunité de recevoir cette grâce. C'est simple, ce n'est pas question de chercher beaucoup de termes bibliques et tout. Tu n'as qu'à dire aux gens, écoutez, dans les temps passés, j'étais ceci. Mais voilà ce que Jésus a fait pour moi. Je ne sais pas dans quoi tu es maintenant, mais je peux juste te rassurer que Jésus est capable de te délivrer de tout. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, peut-être vous avez grandi dans l'église, vous êtes saint depuis que vous êtes petit. Mais moi, je n'ai pas été saint depuis ma naissance. Il y a dans les temps passés, j'ai passé mes journées devant des films pornographiques. Si je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur m'a tiré de là. Il n'y a pas longtemps passé, j'ai passé mes journées dans la masturbation. Mais si je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce que Christ a eu pitié de moi. Et justement, à cause de cela, je me ferai toujours un plaisir de parler de lui. Parce que j'étais dans un malheur et je ne savais pas qui pourrait m'enlever de cela. Aucun moyen, aucune œuvre ne pouvait me délivrer. Parce qu'en même temps que je menais cette vie, chaque semaine, j'étais à l'église, je jouais à la guitare, j'étais aux répétitions, j'étais dans tous les cultes à l'église. Quand il y avait des programmes de prière, je devais être là. Quand il fallait aller servir Dieu, faire des voyages à 90 km dans des conditions compliquées, on partait, on mettait notre vie en risque. Mais en même temps, nous étions loin de Dieu. J'étais loin de Dieu. Mais il a eu pitié de moi. Alors que je méritais qu'il me châtie, alors que je méritais que je sois mort aujourd'hui. Mais il a eu pitié de moi et il m'a délivré de ces choses. Non seulement qu'il m'a délivré, il m'a lavé, il a fait de moi son enfant, mais il est allé encore plus loin. Il a décidé de faire de moi son serviteur. Frères et sœurs, je n'ai rien mérité. Mon frère, ma sœur, tu n'as rien mérité. Mais c'est parce que le Seigneur a eu pitié de toi. C'est parce que le Seigneur a eu pitié de nous. Et s'il a eu pitié de nous, il n'est pas comme nous les hommes où on veut se garder une richesse que nous avons obtenue. Non, il veut accorder sa grâce à quiconque croit. Tout celui qui est être humain, fait de chair et de sang, peut bénéficier de la pitié de Dieu. Mais arrêtons de fermer cela parce que toutes les fois que nous ne témoignons pas de Jésus, les gens ne savent pas savoir que Jésus a pitié d'eux, que Jésus veut le faire miséricorde. Les gens ont une image erronée de Dieu. Ils voient Dieu comme quelqu'un qui est méchant, dès que tu fais un mal, il te punit directement et ça les éloigne de Dieu. Ils se posent des questions, est-ce que vraiment Dieu va me pardonner? Mais il faudrait quelqu'un à qui Dieu a déjà pardonné le péché pour leur dire que Dieu veut vous pardonner votre péché. Christ veut vous sauver de votre malheur. Mais aussi longtemps qu'il n'y a personne qui leur dit cela, l'ennemi continuera à détruire leur vie et c'est là leur sang tombera sur notre tête. Comment expliquer, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes conscients autour de nous qu'il y a quelqu'un qui est toujours là à côté de nous, qu'il est en train de se perdre jour et nuit, on se rend compte qu'il se perd, mais on ne prend même pas le soin de lui dire juste, mon frère, fais même attention, le chemin que tu prends est dangereux pour toi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous arrive? Avons-nous oublié la grâce de Dieu qui est disponible pour tous? Comment expliquer, ça fait une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu as toujours le même voisin sur le banc de l'auditoire, mais tu n'as jamais pris le soin de dire que tu aimes Dieu et que Dieu t'a délivré de ton péché. Non seulement ça, mais personne dans ton auditoire ne sait même reconnaître que tu aimes Dieu et que tu crains Dieu. Qui sommes-nous finalement? Avons-nous peur de notre identité? Ne sommes-nous pas heureux de ce que le Seigneur a eu pitié de nous? Ou alors nous méprisons la grâce de Dieu sur notre vie? Si l'on reconnaît réellement que le Seigneur a eu pitié de nous, il est temps que nous parlions de lui autour de nous. Il est temps que nous rencontrions aux gens, que nous puissions leur raconter tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Et ce témoignage ne doit pas aller d'abord très loin. Arrêtez d'imaginer d'abord d'aller dans les pays étrangers. Jésus a dit, va vers le tien, va dans ta maison. La première personne qui doit recevoir notre témoignage doit être les gens de notre famille. Ce n'est pas normal que tu sois sauvé, tu sois seul dans ta famille depuis 5 ans. Il y a des gens qui se perdent dans ta famille. Tu ne prends même pas le soin de prier pour eux et de leur parler de ce que Jésus a fait pour toi. Les premières personnes qui doivent d'abord témoigner de notre changement, de ce que Christ a eu pitié de nous, doivent être les gens de notre famille. C'est vers eux que nous devons aller en premier. C'est eux qui doivent savoir en premier que Jésus a pitié de nous tous. Parce qu'il y a un passage où je crois que c'est Paul qui l'a dit, il dit, celui qui n'a pas soin des siens et surtout ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. C'est vrai qu'il ne parle pas de prêcher l'évangile, mais ça va en fait dans ce sens. Si réellement nous prenons soin de notre et nous savons que hors de Jésus, nous irons en enfer. Notre premier but, c'était de mettre toute notre énergie pour sauver d'abord notre famille, pour que tous ceux de ma famille soient sauvés. Il y a un pasteur américain qui raconte, il s'appelle Benny Hinn, il est d'origine juive. Les juifs, vous savez, ils ne croyaient pas en Jésus, mais lui, il s'est fait que Christ s'est révélé à lui et il était sauvé. ça a amené beaucoup de problèmes dans sa famille, mais tellement qu'il passait beaucoup de temps avec Dieu et qu'il cherchait Dieu, il voulait tellement voir sa famille être transformée, plus son cœur brûlait à voir la transformation de sa famille, ce qui est arrivé à sa vie a commencé à prendre toute sa famille un en un. Il raconte que ça a pris sa petite sœur, ça a pris ses frères, ses sœurs, jusqu'à ce qu'un bon jour, même ses parents qui ne croyaient même pas en Jésus et qui étaient prêts à lui faire subir le plus grand tort, ont fini par croire en Jésus. J'aimerais juste nous poser une question. Depuis que nous sommes sauvés, sommes-nous allés vers notre famille? Commençons d'abord juste par la famille avant d'aller plus loin. Y a-t-il quelqu'un dans la famille? Si au moins tu n'as pas encore parlé, as-tu même pris le soin juste d'aller dire, Seigneur, comme tu m'as sauvé, sauve au moins tel aussi, qu'il soit sauvé de son mal. Même si ça ne sera pas par moi, mais permets qu'il puisse te rencontrer dans ton chemin. Est-ce qu'avons-nous encore ce cœur tourné à cela? Ou alors on devient tellement égoïste avec le salut que nous avons obtenu. Si nous devons témoigner de Christ, on doit toujours nous souvenir que Christ a eu pitié de nous. Et à cause de cela, nous devons parler de lui, nous devons rendre témoignage de lui tout autour de nous. Alléluia. Alléluia. Alors aide-moi à dire à ton voisin, souviens-toi que Christ a eu pitié de toi. Oh, oh. Est-ce que tu peux lui dire très bien? C'est une bonne nouvelle, ce n'est pas une nouvelle de tristesse. Alléluia. La deuxième raison pour laquelle on doit témoigner de Christ, c'est pour amener à la fois les cœurs incrédules. Pour amener à la fois les cœurs incrédules. Paul est en train de dire cela même dans Romains chapitre 10, à partir du verset 14. Il dit, mais comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu parler de la bonne nouvelle? Comment croiront-ils s'il n'y a personne pour leur parler? Il dit ceci, mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Il y a des gens qui se perdent, pas parce que forcément ils ont refusé, mais parce qu'il y a personne qui leur a parlé de Jésus, qui leur a annoncé que Jésus sauve. Il y a des gens qui ne croient pas parce qu'il y a eu personne qui a pris le soin, le courage d'aller juste leur parler de Jésus. Il y a des gens qui n'entendent que cela. Ils ont tellement besoin d'être sauvés. Ils ont tellement de problèmes, ils cherchent la solution. Mais il n'y a personne qui leur a apporté cette solution. Ils ne croient pas parce qu'il n'y a personne qui leur parle. Ils n'ont pas entendu parce qu'il n'y a personne qui leur parle. Peut-être qu'il y a quelqu'un autour de toi qui est en train de se perdre juste parce que tu ne lui as pas dit que Jésus sauve. Juste parce que tu ne lui as pas donné les témoignages de ta propre vie. Parce que la Bible dit qu'ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et donc, nous qui avons reçu la parole de Dieu et cette parole qui nous a transformés, on doit leur dire qu'il y a une bonne nouvelle pour vous. Il y a une bonne nouvelle pour vous. Vous n'avez pas à vivre dans cette vie misérable où l'ennemi veut vous garder. Vous pouvez être délivré de cette vie. Le Seigneur Jésus est là pour vous. Toutes les fois que nous refusons de témoigner de Christ, sachons-le que nous empêchons à une âme de croire en Jésus, de pouvoir croire en Jésus. Nous privons une âme, nous privons peut-être plusieurs âmes à avoir l'espérance encore du salut. Toutes les fois que nous fermons nos bouches et ne parlons pas de Jésus autour de nous, ou ne voulons pas témoigner de ce que Jésus a fait pour nous, il y a quelqu'un qui risque de ne pas croire, ou nous fermons la porte à quelqu'un de pouvoir croire. Nous empêchons à quelqu'un de croire en Jésus parce que nous n'avons pas pris le courage d'ouvrir nos bouches et de parler de Jésus. Comme je l'ai dit le dimanche passé, tu n'as pas besoin d'avoir tous les versets bibliques. Tu n'as pas besoin de commencer Jean chapitre 1, dit, tu commences à dire non. Tu as juste besoin de dire, j'étais dans le malheur, j'étais dans ceci, j'ai rencontré Jésus, il m'a sauvé. Et s'il m'a sauvé ainsi, il peut aussi le faire pour toi. C'est juste ça. As-tu rencontré Jésus? Alors tu ne peux pas manquer un témoignage à rendre autour de toi. As-tu une histoire avec Jésus? Tu ne peux jamais manquer un témoignage à rencontrer pour Jésus. Tu ne peux jamais manquer un témoignage à dire aux autres de ce que Jésus a fait pour toi si réellement tu l'as rencontré et si tu as une histoire avec lui. Alors arrêtons de nous enfermer dans beaucoup de choses disant que non, je n'ai pas d'expérience. L'expérience vient par la pratique. Tu veux avoir de l'expérience, commence à pratiquer. C'est la succession de ce que tu pratiques qui te donne l'expérience dans le domaine. C'est puisque tu fais la même chose plusieurs fois que tu deviens expérimenté dans la chose. Si tu attends que l'expérience te tombe dessus, ça n'arrivera jamais. Si je peux avoir l'expérience à la prédication de la parole, c'est parce que je l'ai fait plusieurs fois. Si j'attends dans ma chambre de dire que non, le jour que je serai expérimenté, que je parlerai, alors je ne parlerai jamais. Parce que l'expérience, c'est juste le fait que nous ayons pratiqué la même chose à plusieurs reprises, pendant un moment donné. C'est de là que vient l'expérience. Alors si c'est la raison d'expérience, en tout cas, je suis désolé pour toi, ce n'est pas une raison valable. Parce que l'expérience, tu le trouveras sur terre. C'est là que tu seras en contact avec les gens. Tu te rendras compte des personnes qui te disent que moi, je suis lumumiste. C'est Lumumba, mon Dieu. Ce n'est que quand tu seras sur terrain que certains, ils risquent même d'aller plus loin et dire, moi, c'est Satan, mon Dieu. Qu'est-ce que tu vas faire? Je suis sûr qu'il y a certains qui se mettront à trembler quand ils entendront parler de cela. Il y a des choses ici dehors. Mais malgré cela, malgré qu'ils te disent cela, c'est alors que tu dois montrer que ce n'est pas ça la vraie vie. C'est Jésus qui sauve. Et toi, ton problème, ce n'est pas de chercher à convaincre. Ce n'est pas notre part de responsabilité. Jésus n'a jamais dit allez convaincre le monde à croire en moi. Non, il a dit allez prêcher la bonne nouvelle à toute la créature. Mais il a dit c'est le Saint-Esprit qui convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Tout ce qu'il attend de nous, c'est que nous ouvrions nos bouches pour parler. Parce qu'il veut utiliser notre vie, notre bouche, il veut utiliser notre témoignage pour toucher les cœurs des autres. La seule façon de toucher les cœurs des gens autour de nous, c'est qu'ils entendent parler. Et ils n'entendront parler de Jésus que lorsque toi, tu ouvriras ta bouche pour parler. L'Esprit de Dieu est prêt à convaincre, mais il entend juste une bouche qui a déjà rencontré Jésus, qui parlera de lui, autour de lui. C'est alors maintenant que par sa puissance, il pourra toucher les cœurs. Alléluia. Ou alors nous-mêmes, nous ne croyons pas que Dieu est capable de changer de vie. Je ne sais pas pour vous, essayez d'imaginer en vous les pires des péchés qui puissent exister. Les pires, imaginez juste dans votre tête, les pires, en tout cas, c'est ma imarabapan. Vous voyez ces péchés-là, même si tu connais quelqu'un qui est dans ça, Jésus est capable de le sauver. Parce qu'il est écrit que rien n'est impossible à Dieu. Si nous croyons à cette parole, alors rien ne devrait nous arrêter de parler de lui autour de nous. Amen, amen. Et la troisième raison, pour finir, la raison pour laquelle le Seigneur veut que nous puissions témoigner, ou la raison pour laquelle nous devons témoigner de Christ, c'est pour manifester la puissance du royaume de Dieu. C'est pour manifester la puissance du royaume de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, dans ce monde, nous sommes tous sous deux influences. Soit c'est le monde des ténèbres qui nous influence, soit c'est le royaume de Dieu qui nous influence. Il n'y a pas de position intermédiaire. Si Jésus n'est pas dans nos vies, c'est que c'est Satan qui sera en train d'influencer tout ce que nous faisons. Et si Jésus est dans nos vies, c'est que c'est Jésus qui sera en train d'influencer tout ce que nous faisons. Alléluia. Et le Seigneur, lui, pour montrer au monde entier la puissance de son royaume, il passe par les témoignages que nous devons rendre. C'est pourquoi dans Actes chapitre 1, verset 8, Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Parce que le monde spirituel, ce n'est pas un monde où vous allez vous asseoir, vous commencez à faire des débats comme des débats politiques. Non. Ce n'est pas on s'assoit, on met un dossier sur une table, on commence à discuter. Non. Le monde spirituel, c'est la puissance qui joue. C'est celui qui est plus puissant qui domine. Vous pensez pourquoi la plupart des institutions publiques, la plupart des gens sont dans l'occultisme? Vous pensez pourquoi dans ce monde, la plupart des gens veulent toujours avoir quelque chose dans le monde spirituel avant d'avoir la position? Parce qu'ils savent que ce qui gère ces mondes physiques que nous voyons, c'est le monde invisible, un monde de puissance. C'est pourquoi ils sont prêts à faire tout ce qui est nécessaire pour avoir toujours plus de puissance et dominer dans ce monde physique. C'est pourquoi ils cherchent toujours à faire tout ce qu'il faut. Parce qu'ils savent que plus ils auront du poids spirituellement, plus dans le monde dans lequel ils se sont mis, ils auront du poids, plus ils auront aussi du poids dans ce monde physique. Si vous voulez avoir plus de poids dans ce monde, dans cette société dans laquelle nous vivons, tout dépend du poids spirituel que vous avez. Et donc, il y a dans ce monde, la Bible dit, Jésus lui-même dit que le prince de ce monde est en train de venir. Ce monde ici est sous la domination de l'ennemi. Et Jésus est venu manifester la puissance de son royaume pour mettre fin au règne des ténèbres. Et l'une des manières par lesquelles il va mettre fin à ces forces des ténèbres, il faudrait qu'il y ait des gens qui s'élèvent et qui prennent position pour dire qu'il y a une autre puissance que ce que vous connaissez, plus supérieure que ce que vous avez vu jusque-là. Il faut que les gens s'élèvent et disent que la puissance de Dieu est sur nous et nous allons vous montrer que Satan ne fait que vous mentir. C'est ailleurs que se trouve la vraie position spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde spirituel n'est pas un monde de jeu. Ce n'est pas de la blague. Si vous ne voulez pas vous mettre au sérieux, prendre une position sérieuse, je peux vous assurer que Satan se jouera de vous. Vous ne comprendrez pas qu'est-ce qui vous arrive. Il y a un exemple dans la Bible. Je crois que c'était deux ou trois personnes. Ils viennent, ils trouvent un démoniaque et ils disent, nous te chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Le démon leur répond, Jésus, je le connais. Paul, je le connais. Mais vous, qui êtes-vous? Mais là, ce n'est pas encore le problème. C'est la suite où se posent maintenant les plus grands problèmes. La Bible dit que le démoniaque se jeta sur eux. Il les avait tellement maltraités qu'ils ont couru tout nus. Bien-aimés dans le Seigneur, ces choses de Dieu là, quand on vous parle du monde spirituel, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. C'est un monde où c'est la puissance qui joue. Et si vous voulez vraiment vivre tout cela, il faudrait que vous preniez une position sérieuse. Voilà pourquoi même Jésus-Christ de Nazareth, il est né. Il a passé 30 ans. Il n'était connu que comme le fils du charpentier. Les gens ont commencé à le connaître comme Christ à partir du jour où l'Esprit de Dieu était descendu sur lui et qu'il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Lisez la Bible. Il n'y a aucune part où Jésus est allé des lieux en lieu prêcher, faire des miracles, avant que l'Esprit de Dieu ne descende sur lui. Et ça, ça a pris 30 ans. Et c'est à partir de ce moment que tout ce que nous connaissons de Jésus, les miracles, les saluts, tout ce qu'il a fait dans la Bible, a commencé à se faire. Vous pensez que Jésus n'avait pas de discours pour parler? D'ailleurs, on nous montre à l'âge de 12 ans, il commençait à discuter avec les docteurs de la loi. Vous pensez qu'il ne connaissait pas la parole? Il connaissait. Mais seulement, il savait que le terrain dans lequel je suis, le monde spirituel dans lequel je veux maintenant commencer à travailler, il faudrait qu'il y ait une puissance qui agisse en moi. Je le répète encore, si ce n'est pas la puissance de Dieu qui agit en vous, c'est que c'est la puissance de Satan qui agit en vous. Alléluia. Ce n'est pas un monde de jeu. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit à ses disciples, n'allez pas jusqu'à ce que l'Esprit vienne sur vous, jusqu'à ce que vous recevez la puissance du Saint-Esprit. Et si nous devons témoigner de Jésus, ce n'est pas juste pour montrer aux gens que nous savons parler, non. C'est pour montrer au monde que Dieu est puissant et qu'il a vaincu le malin. Mais vous pensez qu'il a vaincu le malin en faisant des bons discours? D'ailleurs, remarquez une chose. Nous sommes encore un peu plus dans un monde où l'homme, par la simple intelligence que Dieu lui a donnée, il est capable de concevoir une idée et de le mettre en place. C'est comme ça que nous avons tout ce que nous avons ici. Quelqu'un s'est mis, il a dit, je voudrais faire quelque chose qui va pousser la voix un peu plus loin. Il s'est mis assis, il a commencé à mettre des éléments en place et nous avons des micros, des baffles, vous pouvez écouter ma voix sans que je ne me mette à crier très fort. Alors si l'homme, par l'intelligence juste qu'il a, il est capable de faire ça. Maintenant, nous qui disons que Dieu est vivant, Dieu, donc on l'a chanté, il est tout puissant, plus grand que tout. C'est nous qui allons nous limiter à commencer juste à parler. Alléluia. Imaginez que on me raconte une histoire. Un pasteur qui vient, il prêche dans quelque part, il dit, Jésus guérit, Jésus ressuscite même les morts. Les gens disent, ah, ok, c'est bon. Ils sont allés chercher un cadavre, ils ont amené à l'église. Pas. Tu as dit que Jésus ressuscite les morts, qu'il ressuscite maintenant. Bon, entre nous, si ça s'est passé ici, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va... Imagine maintenant que ce soit toi, là devant, et puis ce cas arrive. Le pasteur a commencé à prier, au nom de Jésus, tout ça. Ça a pris du temps. Les gens étaient prêts à les lapider, ils avaient déjà pris tous les matins, ils disent, toi là, si ça n'arrive pas, on va te lapider, tu es un menteur. Après, il s'est mis assis, il a dit, Seigneur, si tu n'agis pas ici, c'est moi qui pars. S'il te plaît, viens me délivrer de cette situation. Après avoir persévéré, il a prié. Finalement, gloire à Dieu, la personne est ressuscitée. Tous ceux qui étaient là ont cru en Jésus. Et du coup, Jésus a été glorifié. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord le Seigneur? Pourquoi je suis en train de dire tout ça? Parce que dans ce monde, c'est ce qui compte en réalité. Nous ne sommes pas des philosophes, nous ne sommes pas des discoureurs, des beaux parleurs, non. Nous sommes des gens qui sont remplis d'une puissance supérieure et qui vivent dans un monde où il y a la puissance des ténèbres qui agit et que l'on doit démontrer à tous que Jésus-Christ est vivant. Je l'ai dit le dimanche passé, vous savez le contexte dans lequel les disciples étaient, c'était compliqué dans Actes des Apôtres. Toute la foule a vu Jésus pendant 3 ans, en train de partir de lieu en lieu, faisant des miracles et tout ce qui allait avec. Et du coup, un bon matin, des gens se lèvent, commencent à vous dire que c'est Jésus que vous avez crucifié, il n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité. Ok, une question entre nous. Quelle était la meilleure preuve pour tous ces gens-là de dire que Jésus est ressuscité? Alors, on est là. Quelqu'un va essayer de répondre. Qu'est-ce qui pouvait prouver à tous que Jésus est réellement ressuscité, personne ne prend le courage. Ce qui pouvait prouver à tous que Jésus est ressuscité, c'était qu'ils voient ces gens faire les mêmes œuvres que Jésus a fait quand il était vivant. Ils ont vu Jésus marchant, guérissant les malades. Ils ont vu Jésus marchant, chassant les démons. Ils ont vu Jésus marchant, accomplissant des miracles, prêchant la bonne nouvelle avec autorité. Et donc, si vous nous dites que Jésus est ressuscité, il fallait que les disciples puissent guérir les malades, il fallait que les disciples chassent les démons, il fallait que les disciples fassent toutes les œuvres que Jésus faisait. C'est pourquoi quand vous lisez les actes des apôtres, vous remarquez ces mêmes œuvres se faire encore. Pourquoi? Parce que dans Luc, il était question de ce que Jésus a commencé à faire physiquement sur terre par son propre corps, mais dans actes des apôtres, il était question de ce que Jésus a continué de faire par son corps spirituel, l'Église. Il fallait que ça soit une continuité de ce que Jésus a commencé de faire. Parce que Jésus ne s'est pas limité, les œuvres que Christ faisait ne se sont pas limitées quand il est mort. Il fallait qu'il y ait une continuité et c'était son corps spirituel, l'Église que nous sommes, qui devait continuer cette œuvre. Et donc, aujourd'hui encore, s'il faut que l'on sache que Jésus est vivant, il faut que les mêmes œuvres que nous disons Jésus capable d'accomplir puissent se faire au milieu des hommes. C'est pourquoi nous devons témoigner de Jésus parce que ce n'est que là que le Seigneur sera en train de manifester sa puissance. Ce n'est pas quand nous sommes dans notre chambre, non. Allons dans nos chambres, prions le Seigneur qui nous remplisse de sa puissance et allons dans le monde, montrons-leur la puissance que Jésus s'est manifestée. Alléluia. Amen, amen. C'est pourquoi Jésus dit ceci dans Marc chapitre 16, versets 15 à 20. Il dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la créature. Et il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça, ce sont des choses qui accompagnent ceux qui partent annoncer la bonne nouvelle. Ce n'est pas un bonus que Dieu nous donne parce que nous allons faire. Non, c'est l'accompagnement normal de tout témoin de Christ. Il faudrait que les miracles et toutes ces choses l'accompagnent. Amen, amen. Et dans Luc chapitre 4, Jésus sort du désert. Je pense qu'on va relire ces passages, nous serons en train de finir. Jésus sort du désert, la Bible dit ceci. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue. Le jour du sabbat, il s'éleva pour faire la lecture. Et la Bible dit qu'on lui remit les livres du prophète Ésaïe. Lorsqu'il les roula, il est tombé là où était écrit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et à la fin, le verset 21, il dit, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et j'aimerais le dire, si c'était accompli au jour où Jésus l'a dit, jusqu'aujourd'hui encore, ça s'accomplit. Si l'on dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est que ce que Jésus-Christ a fait hier, il est fait aujourd'hui et il le fera encore jusqu'à l'éternité. Et il n'a pas changé. Amen, amen. Alléluia. Et après, quand vous lisez trois chapitres un peu plus loin, au chapitre 7, Jean-Baptiste qui était arrêté, lui qui avait fait le témoignage, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, en prison, il a commencé à douter. Il a envoyé ses disciples, allez demander à ce type, est-il celui qui doit venir ou devrons-nous en attendre un autre? Qu'est-ce que Jésus fait? Avant de répondre aux disciples, la Bible dit qu'il regarda autour de lui, il commença à guérir les malades, il commença à chasser les démons et il commença à faire toutes ces œuvres qu'il vient de citer. Et après, il dit à ses disciples, allez dire à Jean ce que vous avez vu et entendu. Parce que lorsque vous leur direz que ces choses, vous lui direz que ces choses sont accomplies, il n'y aura plus aucun doute chez lui. Frères et sœurs, il peut y avoir des doutes dans tout ce que nous disons comme parole. Mais quand la puissance de Dieu se manifeste au milieu de nous, il n'y a personne qui peut douter. Même si c'était un doute le plus dur, le cœur le plus incrédule, à partir du moment où il voit la puissance de Dieu se manifester autour de lui, il aura toujours le cœur incrédule qui sera brisé et la foi va naître en lui. Alléluia. Il y a un homme, un Congolais, il est déjà mort, Aïdini Abal, je crois que les gens le connaissent, Alexandre Aïdini Abal. Il raconte son témoignage de comment il était sauvé. Il venait, il est de l'Ituri, alors à l'époque de la colonisation et tout, Il était dans une école belge, des blancs, disons. Quand il est venu dans cette école, on leur distribuait le Nouveau Testament. Et en lisant, en ouvrant le Nouveau Testament, il est tombé sur cette parole de Marc chapitre 16. En lisant ça, il s'est rendu compte que Jésus est capable de faire ça. Il a commencé à poser des questions. Alors tous ceux qui étaient autour de lui lui faisaient taire, disant que non, ça ne te regarde pas et tout. On l'interdisait de faire ça, au point qu'à cause de sa foi, il a été chassé de l'école. Alors cela a créé une haine en lui contre Dieu. Il détestait tellement Dieu et partout il voyait des gens qui se disent que non, Jésus est vivant, Jésus guérit. Lui, il partait là-bas, non pas pour écouter le message, mais pour combattre toutes ces personnes. Il a commencé à toucher même à des magies et trucs. Comme ça, quand il venait à un endroit, vous vous dites que vous priez, lui, il vient pour juste venir embrouiller les choses. Et c'était ça sa vie pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'il a grandi. Alors, un jour, il y a un Américain, T.L. Osborne, qui est venu prêcher, je crois c'était au Kenya ou en Tanzanie, si je ne me trompe pas. Il était parti là-bas avec son équipe. Ils avaient écrit là-bas que Jésus est capable de guérir et tout. Il dit, non, vous, vous êtes des aventuriers, vous mentez les gens. On va venir voir si Jésus guérit. Il est venu avec son équipe. Ils ont pris la maman d'un de ses amis qui était aveugle. Depuis des années, elle était aveugle, elle ne voyait plus. Alors, ils ont monté. Ils disent, nous allons arriver là-bas, on va nous séparer. Avec notre magie, on sera en train de faire ce qu'on a l'habitude de faire pour que ces gens-là, ces menteurs-là, qui ne fassent pas, qui ne puissent pas dire leurs mensonges ici. Ils sont arrivés. T.L. Osborne est arrivé. Campagne d'évangélisation des foules, il a commencé à prêcher et prêcher. Arrivant là-bas, quand il cherchait à vouloir faire ses histoires, il a dit que Jésus guérit. Il était venu avec la femme en question là devant. Il a dit, si Jésus guérit, malade, il faudrait que cette femme puisse voir. L'évangéliste l'a regardé et dit, ah bon, ok, amène la femme. La femme est venue là-bas. N'est-il pas prié pour la femme? Quand il a prié, finalement l'aveugle l'a vu. Ça l'avait complètement troublé. Il a dit, ok. Parce qu'il ne voulait pas que non, ça soit quelqu'un de la foule. Il se disait, si c'est quelqu'un de la foule, peut-être c'est leur jeu. Moi, je vais amener quelqu'un que je connais aveugle. C'est attesté et affirmé qu'elle est aveugle. Et on verra si ce qu'ils disent est vrai. Et ces jours-là, lui qui était venu dans le but d'embrouiller les choses que Dieu était en train de faire, finalement, la femme a vu. Et c'était le début pour lui de sa conversion. Pourquoi? Ces jours-là, ce qui l'a transformé, ce qui a changé son cœur, n'était pas tout le beau discours que l'évangéliste pouvait dire. C'était juste la seule chose qui était plus précieuse pour lui, que la femme qui était aveugle puisse être guérie, puisse recouvrer la vue. Et Jésus dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour ouvrir les yeux des aveugles. Frères et sœurs dans le Seigneur, cette promesse n'était pas limitée à une catégorie de personnes. C'est pour quiconque a cru au Seigneur Jésus. Alléluia. Non seulement que la puissance de Dieu est là pour nos capacités, pour prêcher l'Évangile, pour témoigner de Christ, mais bien avant cela, cette puissance agit même dans nos cœurs pour nous délivrer de tout ce qui nous enchaînait quand nous étions encore dans le monde. Oh, ça fait des années que je prie, je cherche Dieu, mais je n'arrive pas à me débarrasser de telles choses. Il n'y a que l'Esprit de Dieu par sa puissance qui sait briser toutes ces choses qui ont tendance à vouloir nous ramener en arrière. Oh, on m'a dit de faire ceci, j'ai fait. Mais ça ne marche pas. Parce que ce ne sont pas nos œuvres qui nous transforment. C'est la puissance du Saint-Esprit qui doit agir en nous. Alléluia. Et Jésus est venu, loin du Saint-Esprit. Jésus, loin ses disciples, ceux qui sont ses témoins, pour justement accomplir cette œuvre que lui-même a commencé de faire, pour manifester la puissance de son royaume, pour montrer réellement qu'il est tout puissant. Il ne suffit pas de dire que Dieu est tout puissant pour que l'on croie qu'il est tout puissant. Il faut manifester et démontrer que Dieu est tout puissant. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever? On va prier juste pendant quelques minutes. Jésus.